Bonsoir, Judith Soumino Toulouka, ancienne ministre d'État en charge du plan, devient la toute première femme dans l'histoire du pays à occuper le poste de premier ministre. Dans ses premiers mots, après avoir été reçue par le chef de l'État lundi, elle affirme être consciente de la grande responsabilité qui est sienne. Judith Soumino Toulouka s'engage avec son futur gouvernement à travailler pour la paix tout en exprimant sa compassion à tous les Congolais confrontés à des conflits, notamment dans l'est du pays. Quelle analyse faire de cette nomination? Quels sont les défis qui attendent la nouvelle première ministre de la RDC et son gouvernement? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mardi 2 avril 2024. Participe au débat Prince Epengue, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, membre de la plateforme Lamouka. Il est l'un des porte-parole de cette plateforme. Prince Epengue, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Linda Ndundo Bononge, job et business, facilitatrice et formatrice, elle est personnalité politique et cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes, GFPI, membre de l'Union sacrée de la nation. Voilà. Linda Ndundo, bonsoir. Et Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
À Kinshasa, vous nous suivez sous la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioetiapie.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Etiapie. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, Judith Soumino Toulouka, ancienne ministre d'État en charge du plan, nommée premier ministre de la RDC lundi 1er avril par ordonnance présidentielle. Dans l'histoire de la RDC, c'est la première femme qui est élevée à ce poste dans ses premiers mots après avoir été reçue par le chef de l'État. Elle dit être consciente de la grande responsabilité qui est sienne. Elle s'engage avec son futur gouvernement à travailler notamment pour la paix et exprime sa compassion à tous les Congolais confrontés à des conflits, notamment dans l'est du pays. On écoute la première ministre Judith Soumino Toulouka dans cet extrait proposé par Alain Hong.
Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle.
Après la nomination de la première ministre, quelle est la suite des événements et à quand l'investiture du gouvernement, tentative de réponse dans ce papier de Michel Kifinda, rendu par Cynthia Bachizi.
Tout d'abord, la première ministre Judith Soumino Toulouka procédera par la formation de son gouvernement qui devra tenir compte de la représentativité nationale en vertu de l'article 90 de la Constitution. Ensuite, le gouvernement définira en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assumera la responsabilité devant l'Assemblée nationale conformément à l'article 91 de la Constitution. Après élaboration du plan d'action de son gouvernement, gouvernement déclinée sur les programmes gouvernementaux, la première ministre présentera à l'Assemblée nationale le dit programme qui sera soumis au débat. Et enfin, viendra l'étape de l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale après débat autour de son programme. Le gouvernement ne peut entrer en fonction que lorsque son programme est approuvé à la majorité absolue des députés conformément à l'article 90 de la Constitution. Notez toutefois qu'il existe un autre préalable majeur pour que le gouvernement soit investi à l'Assemblée nationale, c'est le vote et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, car le bureau provisoire en place actuellement n'a pas qualité en vertu de l'article 114 de la Constitution d'investir le gouvernement.
Vous êtes déjà très très nombreux à réagir au thème de ce soir, Adonis Oswald de Kamingwa. Depuis Kolwezi au Lualaba, l'élévation d'une femme à la primature ne doit pas être vue comme un fait qui sort de l'ordinaire, d'autant plus que le cerveau d'une femme est identique à celui de l'homme, malgré que celui-ci a montré plusieurs limites dans la gestion du monde depuis que le monde est une structure organisée. François Okundji Lange, depuis Chikapa au Kasaï. La nomination est distinctive du fait que depuis l'indépendance, aucune femme n'a été première ministre. C'est une innovation que le président Tshisekedi va laisser dans les annales. Certes, les défis sont majeurs et énormes dans les urgences sur le plan social et sécuritaire. Prince Pengue, vous êtes président du Parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo. Vous êtes membre, c'est un parti qui est membre de la plateforme Lamuka. Vous êtes parmi les porte-parole de cette plateforme, une femme à la tête du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense ce que les Congolais. je pense plutôt ce que les Congolais disent déjà. Et bien avant, laissez-moi saluer mes co-débatteurs de ce soir. Il n'y a rien de nouveau, madame. J'aurais bien voulu saluer la présence d'une dame à la tête du gouvernement, à mon corps défendant d'ailleurs, mais comme l'auditeur l'a rappelé à juste titre, ce n'est pas un événement en soi. Les femmes...
C'est une première quand même, hein, dans l'histoire de la RDC.
C'est parce que vous êtes tombé dans les pièges de M. Félix Tshilombo, qui s'occupe plus des divers que des questions de fond. Les femmes en général, et les femmes congolaises en particulier, n'ont plus rien à prouver. Les femmes congolaises ne sont en compétition avec personne. Elles sont compétentes, nous le savons. Elles sont intelligentes, c'est connu de tous. Pour preuve, vous êtes en face de moi, je ne suis pas plus que vous. Je ne vais pas parler de Ngampeta ici, je ne vais pas parler de Kimpavita ici. Les femmes congolaises ont toujours excellé. Pour peu qu'on leur laisse la liberté de s'exprimer et surtout qu'on leur donne des responsabilités. C'est pas une question de genre, c'est pas une question de sexe. Il s'agit de gouverner la République. Et on ne gouverne pas bon ou mauvais, c'est pas de sexe. Soit on est compétente, ou on ne l'est pas. Soit on est compétent, ou on ne l'est pas.
À ce qui concerne madame. Si les femmes sont compétentes, elles excellent, pourquoi ne pas tenter avec la femme là où l'homme a échoué.
Madame, il y a deux mouvements majeurs très souvent en physique. C'est le mouvement des rotations et un autre qu'on appelle le mouvement des translations. Madame Judith arrive dans un contexte où la roue subit un mouvement de rotation, je ne vois pas quel est le miracle que madame Judith va accomplir pour changer le mouvement de rotation en mouvement de translation. En d'autres termes, si autour d'elle, les choses ne sont pas structurées de manière à la permettre de travailler, peu importe ses compétences, elle ne saura exceller. Et je vais vous le démontrer. Premièrement, il ne faut pas non plus faire comme si Madame Judith tombe du ciel. Elle a déjà travaillé. Elle a été ministre d'État, ministre du plan, et vous connaissez le rôle qu'a le ministère du plan, notamment celui d'élaborer et de budgétiser et d'assurer le suivi des politiques et des plans à ce qui concerne notamment les investissements publics. La dame a suivi le programme de Silingelou. La dame a suivi le PDL 145 territoires. Et vous savez, les naufrages financiers que nous avons connus avec 145 territoires, madame, cette affaire de construction d'arena, même des centres financiers, vous savez ce qui se passe? Donc, la dame n'a pas non plus de mains propres, comme on voudrait le dire ici. Mais laissez-moi vous dire, madame, d'emblée, parce qu'on va entrer au fond du débat.
Moi, j'ai plutôt l'impression. La ministre dépendait, elle avait un premier ministre, maintenant c'est elle qui est à la tête du gouvernement.
Et nous sommes des bantous, on dit que les poissons commencent toujours à pouvoir par la tête. Et elle dépendait du premier ministre, le premier ministre dépendait de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, elle dépend directement de Félix Tshisekedi. Ça ne change rien. Elle n'a pas excellé car elle était au ministère du plan. Vous savez, elle a suivi les programmes de 145 territoires, madame. Je vais vous donner un cas. Dans la nomenclature budgétaire, il a été prévu qu'on construise une école de 6 classes à Irumo, école de Dama. Dans la nomenclature budgétaire du programme de 145 territoires d'une école de 6 classes à Irumo, dans la province de Touré, c'était l'école de 600 de classes, l'école primaire, elle devait coûter 140 000 $. Au finish, l'école avait fini par coûter 455 000 $. Et c'est la dame qui a attiré les suivis de tout ça. Est-ce qu'elle peut nous expliquer cela?
Les
800 millions que la Banque mondiale avait également décaissé pour appuyer ces fameux programmes FEDEL. Il n'y a pas moins de 200 millions qui s'étaient volatilisés. Olivier Kamsa, tu l'avais dénoncé ici. La dame qui a suivi, parce qu'elle, son rôle comme ministère du plan, c'était, comme je vous l'ai dit ici, d'élaborer, de budgétiser et de suivre les plans et les politiques publiques. Elle n'a jamais donné une explication claire à ce qui concerne ce détournement-là. Donc, la dame ne vient pas du ciel, mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, à ce qui concerne la coalition de la Mouka et mon partage du Congo, et d'après ce que le peuple me dit, en réalité, madame Judith est tout simplement Sam Aloukonde, version féminine.
Merci, Prince Epengé. On va vous redonner la parole. Hein. Vous êtes trois dans ce débat. Linda Ezundo Bonungue, job et business facilitatrice et formatrice. Vous êtes personnalité politique et cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes, membre de l'Union sacrée de la nation. Judith Touluka égale Sam Aloukonde 2, selon Prince Epengé.
Bon, c'est ta parole, c'est son opinion. Sa parole, c'est son opinion. Déjà, moi, je suis Union Sacrée, mais les dames qui font partie du groupement des femmes politiques indépendantes ne sont pas toutes de l'Union Sacrée, puisque l'objectif du GFPI, c'est justement l'avancement des femmes pour la parité, le soutien aux jeunes et aussi le soutien aux personnes vulnérables afin qu'ils puissent briguer des postes par les élections, des nominations, accès à des concours. Et donc pour donner plus d'inclusivité avec la parité aussi. Écoutez, c'est le droit de mon co-débatteur de penser qu'il en est ainsi, et c'est tout à fait normal, il fait partie de l'opposition. Malheureusement, l'opposition doit être constructive, mais souvent, ici en République démocratique du Congo, nous avons constaté ces derniers temps que l'opposition ne construit pas, dès que quelque chose arrive, on détruit. Alors en tant que femme, lorsque j'entends un homme dire que ça ne crée pas la différence, mais écoutez quand même, depuis les indépendances, on n'a jamais eu de femme premier ministre. Dire que ça ne crée pas la différence, quand on parle du genre, c'est et je pense qu'il y avait quelqu'un qui faisait partie de l'opposition et dont le débat était justement sur le genre. Donc c'est quand même bizarre, ils ne s'entendent pas entre eux. Ils ont peut-être des mouvements différents, donc l'un pousse pour que le genre soit reconnu et qu'il y ait une certaine conception du genre, et puis l'autre dit « Oh, bon, ça ne crée pas de différence ». Quand on voit des hommes, c'est comme si on voyait des femmes. Non, en tout cas...
Alors, c'est quoi la différence que cela pourrait créer, Madame Ndundolina?
La différence, c'est une preuve de co-gestion de l'État Nous sommes 52% de femmes, selon certaines statistiques. Donc, c'est plus de représentativité. C'est la preuve qu'il y a des femmes aussi qui sont compétentes et qui a une accessibilité. C'est la preuve, et je félicite le président de la République pour ça, de continuer sur la masculinité positive, parce que c'est lui qui l'a fait et personne d'autre. Et c'est quand même une histoire, si je peux dire, quand même avec l'UDPS, parce qu'à l'époque, on avait une des filles, Kassavou, qui était quand même un fort pilier de l'UDPS. Donc, ça, on revient un peu à cet aspect des choses. Les femmes de ce parti-là aussi, bon, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais les femmes de ce parti ont joué un grand rôle aussi. Donc, on remercie le fait que Dieu nous ait donné un président qui comprenne que les femmes ont leur place, qu'elles peuvent faire la différence. Dans la gestion, dans la façon de faire les choses, on voit déjà une certaine humilité dans le débat, en fait, le premier discours qu'elle a fait. Beaucoup, on a senti une mère, on a senti une sœur, on a senti quelqu'un parler et vraiment une personne qui sentait le pays et qui avait à cœur le pays. Bien souvent, les politiciens, quand ils ont leur premier discours, c'est très beaucoup d'éloquence. Et là, on a senti le cœur d'une femme. Donc je pense que pour le reste, elle va apporter beaucoup aussi parce qu'elle a un bon profil. C'est une carriériste. C'est quelqu'un qui a commencé. Bon, déjà, point de vue des études, elle a un gradué en comptabilité, ensuite une licence en gestion et puis un master en ressources humaines. Donc, quelque part, elle est formée à gérer les gens. Et un des défis qu'elle aura, c'est de gérer une série d'hommes qui pensent que parce que c'est une femme, ceci, parce que c'est une femme, ce ne sera pas différent, et voilà.
Et en parlant de cœur, il y a une certaine opinion qui pense que dans le contexte actuel congolais, c'est pas une bonne idée d'avoir une femme à la tête du gouvernement, parce que justement la femme, elle réfléchit avec le cœur et non avec le cerveau. Ça c'est l'opinion hein, de certains Congolais, et que ça sera difficile pour elle de prendre certaines mesures impopulaires pour le bien du pays.
Non, la femme a du cœur, mais elle a de la rigueur. La preuve, c'est que c'est la femme qui éduque les enfants. Et je pense que tous les enfants congolais ne sont pas des voyous. Donc, il faut avoir une mère. On connaît nos mamans, hein. Même avec un mapa pas de loin, elles peuvent nous attraper avec le balai. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire. Et c'est encore un côté un peu homme qui traite les dossiers, non pas professionnellement, mais à titre de homme et femme intimement. Oui, une femme est faible quand elle est amoureuse, quand ceci, quand cela, mais quand une femme doit faire son travail, elle a le cœur. Et les femmes en République démocratique du Congo, si on parle des 1 million de femmes qui ont été violées à l'Est, et qu'aujourd'hui on entend « elles reconstruisent l'Est », Elles réhabilitent leur propre vie, leur propre psychologie. Elles se lancent dans d'autres activités que celles qu'elles faisaient dans les champs. Dans cette dureté-là, elles continuent de s'occuper d'enfants. On voit les femmes dans les camps. Toutes ces femmes qui ont dû vivre pendant des années où on ne payait pas leur époux. Mais elles ne sont pas tombées dans la dépression, quoi. Elles ont tenu fort dans les commerces, elles ont tenu le pays. Même les femmes de la diaspora, même dans les églises, en général, quand on fait compétition entre les hommes et les femmes, malgré le fait qu'elles ont des défis, souvent c'est les femmes qui cotisent plus. C'est les femmes qui gèrent avec le peu qu'il y a dans la maison. S'il y a 15 ou 20 personnes dans la maison, elles ont le cœur d'être strictes avec les 20 personnes. Chacun va manger une portion, et elle est obligée d'être dure, elle ne peut pas donner plus à une autre personne, elle doit être juste. Donc dans tous les aspects de la vie...
Vous pensez donc avec Madame Judith, les choses pourraient changer, ou les choses vont changer?
Assurément, elles vont changer, surtout qu'on voit dans son parcours professionnel qu'elle a été préparée, travailler dans, par exemple dans les Nations Unies, travailler dans des projets de développement du PNUD, c'est continuellement gérer des situations de crise. C'est gérer des budgets. Quand j'entends mon co-débatteur ici qui parle de on ne sait pas à quel montant, C'est trop facile de lancer des slogans de détournement et ne pas avoir les preuves. C'est trop facile aussi de débattre et ne pas... C'est-à-dire, à la limite, on pourrait se dire que M. Kamitatou, ayant été ministre de plan, mais quel est son bilan? C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir rendre des comptes des activités que lui-même il a posées pour pouvoir donner du crédit à ce qu'il dit vis-à-vis d'un collègue qui passe par le même endroit. Donc, oui, moi je pense qu'elle relève déjà le défi parce qu'elle est sur le programme 145 territoire déjà avant. Elle est passée à différentes étapes professionnelles dans sa carrière. Et je pense que c'est justement parce qu'elle est capable. Non, c'est pas une question d'espoir. Je pense que le président de la République l'a choisie en connaissance de cause parce qu'elle est compétente. C'est pas une question d'espoir. Elle est compétente. Elle s'occupe déjà de ce dossier.
Merci.
Et elle mènera à mieux en tant que première ministre.
Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre avis sur la nomination de Judith Soumino à Toulouka?
Pour moi, je retiendrai trois choses, je dirais. La première, c'est qu'elle est, elle est quand même, le candidat de la continuité. Parce que nommer un premier ministre alors qu'on sort d'une élection où les attentes sont énormes, si vous avez un homme nouveau, vous avez la possibilité de donner à cet acteur 2-3 mois de reprendre les dossiers. Alors que sa proximité avec le président, le fait qu'elle ait été au gouvernement, fait d'elle quand même un acteur de continuité parce qu'elle connaît les dossiers et donc elle est censée continuer. Deuxièmement, elle a un profil des technocrates. Beaucoup ont dit, moi y compris, qu'il ne fallait pas un gouvernement des politiques, qu'il fallait des techniciens pour travailler dans l'efficacité. Sous ce point-là également, elle a ses profils de technocrate. Maintenant, on verra en tant que technocrate comment elle va gérer des politiques. Parce que le défi pour elle, c'est justement cela. Si on forme un gouvernement demain avec des chefs des partis, comment elle assumera ce leadership de gérer des chefs des partis dans son gouvernement? L'autre défi, c'est comment elle réussit à s'affranchir de l'hyperaction du président. On a un président hyperactif, on parle même d'hyperprésidence, qui a fait que pendant très longtemps, on n'a pas vu des premiers ministres agir. Samuel Kounde en a payé les frais. Et donc, face à un président hyperactif, comment elle se démarre, comment elle s'affranchit, comment elle s'affranchit d'une présidence très active également, en termes de gouvernance, et comment enfin elle contrôle le Parlement. Elle n'est pas chef de parti, elle n'est pas chef de majorité. Comment son statut de technocrate l'aidera à manœuvrer le Parlement? On a vu dans le passé un certain Martin Pognon, qui avait pratiquement le même profil technocrate, qui a eu les mêmes problèmes quand il s'agit de gérer le Parlement hyper politique. Et donc oui, elle a des atouts qu'il faut reconnaître en termes de technocratie, en termes de compétences, mais également elle expose à des défis énormes et ça, on verra dans les jours à venir quelle sera sa capacité de leadership à répondre à ces défis-là.
Alors, en tant qu'analyste politique, vous voyez Mme Judith Toulouka s'affranchir, vous pensez qu'elle pourrait le faire?
Bon, je ne la connais pas personnellement, tout dépendra de son caractère, de sa personnalité.
Elle vient de l'UDPS, elle sait que c'est le chef de l'État qui l'a nommé. Ce sera possible.
Tout dépendra de sa personnalité, tout dépendra de marge que voudra lui donner le président. Si vous avez un président qui gardera son hyperactivité, c'est qu'elle subira. Si le président décide de reculer et de donner un peu de place à la primature, eh bien on la verra plus active. Tout dépendra de comment elle négociera cela. Et tout dépendra de sa personnalité, comment elle va imprégner de sa marque ce strapontin-là. Je crois que chaque Premier ministre a son style de leadership et nous aurons peut-être le temps de découvrir quel sera son style de leadership.
Alors on va parler des défis dans la deuxième partie de notre émission, mais avant d'en arriver, on va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler sur notre standard, ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue. On va se rendre à Kolwezi pour écouter cet auditeur.
Chouk Mouigiro à partir de Kolwezi. Je salue de prime abord la nomination de Madame Judith à la tête du gouvernement. Cette nomination ne doit pas être considérée comme un pari gagné dans la lutte d'égalité des chances et la promotion des droits de la femme, mais plutôt comme un défi à relever, de mieux faire là où les hommes ont échoué. Nos yeux sont désormais braqués sur elle, car elle est aussi ici de la diaspora et d'aucuns ignorent l'implication de la diaspora dans le détournement des deniers publics lors du dernier quinquennat du président Félix. Je pense également qu'elle doit faire du rétablissement de l'autorité de l'État à l'est du pays la priorité de sa politique publique, car petit à petit, le M23 et la rébellion des Nanga est en train de gagner non seulement les terrains, mais aussi les âmes, suite à la déception des Congolais par rapport à la manière dont l'IDPS est en train de gérer le pays.
Christian Bolika.
Ouais, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de priorités sur la table. Comment elle fera pour répondre à la question sécuritaire? Bon, déjà, il faut rappeler que le Premier ministre sortant n'a s'est jamais pratiquement pas prononcé sur la question sécuritaire. C'était apparemment un choix du président. Est-ce que nous aurons un Premier ministre qui va se lancer sur cette question-là ou ça restera, comme dans le passé, un choix du président? On verra bien les choses à venir. Après, il y a énormément d'attentes des Congolais. La campagne a montré le besoin pressant d'avoir des résultats concrets. Et donc, elle n'aura pas de temps de grâce. Elle devra, dans les choses à venir, apporter des réponses concrètes, mais tout dépendra de l'équipe qu'elle va constituer. Des gens qui vont l'accompagner pour qu'elle puisse réaliser ce dont les Congolais attendent, à savoir avoir des résultats concrets sur la table.
Alors, il pense que cette nomination ne doit pas être considérée comme un pari gagné dans la lutte d'égalité des chances et de la promotion des droits des femmes.
Par contre, moi je pense que c'est le contraire. Ça doit être perçu comme un vrai progrès. Je rappelle quand même que la première fois qu'on a une femme ministre en 1966, c'était Sophie Kanza. Elle était ministre de la condition féminine. Et depuis, les femmes ont progressé. On a eu des femmes à des postes techniques, on a eu des femmes au ministère des portefeuilles, aux affaires étrangères, aux mines, et récemment, on a eu une femme à l'Assemblée nationale. Je rappelle quand même que nous sommes le quatrième pays en Afrique à avoir une femme premier ministre. Le Gabon, le Togo, la Namibie et maintenant le Congo, sur 55 pays. Ça veut dire que, sur ce point-là, nous avons quand même fait une avancée qu'il faut reconnaître. C'est une avancée de plus. Mais non, ce n'est pas une fin en soi d'avoir une femme. C'est une femme qui est appelée à répondre à des objectifs. On ne l'a pas choisie parce qu'elle simplement est femme. On l'a choisie parce qu'elle est technocrate, elle a de la compétence, bien évidemment avec de l'inclusion féminine. Et maintenant, on attend d'elle des résultats. Ce n'est pas le fait d'être nommée femme qui suffit. Et comme elle est pionnière, eh bien les gens seront très critiques à son égard. Si elle réussit, elle ouvrira la porte à d'autres femmes. Si elle échoue, eh bien, ce sera pour elle un coup pour le combat de la femme, parce que ce sera difficile de voir une autre femme revenir rapidement.
Peter Maboudi, qui nous écrit depuis Kinshasa, nous saluons la nomination de Mme Judith à la tête de l'exécutif du gouvernement central en RDC, lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, le premier défi auquel elle doit faire face est celui de l'environnement politique de la RDC, où les cultes de la personnalité, autorité morale, est un mode de gouvernance d'une part, et l'existence d'un gouvernement parallèle, programme ou projet de la présidence, d'autre part. Le second est celui lié au choix des collaborateurs, qui sont généralement membres des familles et militants des partis politiques, sans tenir compte de la méritocratie. Et troisièmement, le modèle budgétaire approprié pour relancer tous les secteurs de la vie nationale et la capacité mobilisatrice des recettes publiques. Linda Ndundo, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction?
Oui, les défis qu'il a soulevés sont les défis qu'un homme peut avoir. Et souvent, ce qui arrive avec les femmes, c'est que lorsque les femmes prennent un rôle qu'aucune n'a occupé, on est plus exigeant avec les femmes, alors que peut-être une cinquantaine d'hommes sont passés par le même poste, et c'est pas pour ça qu'on a remis en question tous les hommes. Donc ce qui est bizarre, c'est que l'accessibilité à un poste par une femme, un poste qu'une femme n'a jamais occupé, on exige d'elle la perfection à 100%, et dès qu'on va considérer qu'il y a une imperfection, ça devrait bannir toutes les autres femmes. Nous, au groupement des femmes politiques indépendantes, depuis que nous existons, ça fait à peu près un an, à chaque action, surtout publique qu'on a eu à faire, on a mis en avant des associations de femmes qui avaient des objectifs bien précis. Et cette année-ci, pour le mois de mars, on avait mis en avant 4 associations, dont la coalition des femmes leaders, qui demandait à avoir une femme premier ministre. Donc pour nous, c'est un gain. Pour nous, c'est quelque chose de positif. c'est une victoire, c'est un pari gagné. Déjà, le fait qu'une femme accède. Le second point que nous avons souligné en tant que GFPI, c'est le fait qu'il y a une infraction flagrante à la Constitution, parce que au gouvernement, on n'a pas la parité. Or, c'est inscrit dans la Constitution qu'il devrait y avoir parité homme-femme, c'est-à-dire que pour chaque poste du gouvernement, entre autres, et pour tout autre, c'est qu'il devrait avoir le même nombre de femmes vice-premier ministre, le même nombre de femmes vice-ministres et vice-ministres que d'hommes. Donc, le pari n'est pas encore totalement gagné. Et ici, il y a vraiment une flagrance, parce qu'effectivement, on aurait pu choisir un homme et puis avoir un gouvernement paritaire. Donc, les défis que moi, je vais ajouter pour la première ministre, c'est de pouvoir, non seulement avec toutes ces lois qui obligent, qui est un équilibre national, appliquer aussi cette loi de la Constitution qui demande une parité. Va-t-elle pouvoir librement organiser un gouvernement paritaire? Ça, c'est le plus grand défi pour nous, les femmes. Alors, tous les autres points sont... C'est-à-dire, il y a d'autres femmes qui sont des technocrates, qui sont compétentes, qui font partie de différentes régions de la République et de différents partis. Et donc, on peut les mettre également en avant. Alors, et je pense que si nous arrivons déjà à une situation où nous avons un gouvernement équilibré à tous ces sens-là, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Point de vue de l'hyperactivité du président, le premier mandat n'est pas le deuxième mandat. Et c'est la consolidation des acquis, c'est-à-dire qu'il a choisi quelqu'un dont il est sûr, qui marchait déjà dans la vision, était dans la mise en place de la vision, comprend bien la vision. On sent bien dans le discours de la première ministre qu'elle est sur les plateformes du chef de l'État. Il ne faut pas oublier que le gouvernement Samalou Kondé a été établi sous la pression qu'il fallait absolument avoir un premier ministre du Katanga. Heureusement, nous sommes sortis déjà de cela. On entend déjà un premier intervenant qui dit qu'il est satisfait avec ça. Ce n'est pas ce qu'on entendait auparavant. Donc, je pense que nous avons de nombreux défis à faire face et que ça présage de bonnes choses pour ce qui est à venir.
On va se rendre au Nord Kivu après Kinshasa pour écouter cette autre auditeur.
Blaise Mouhawe Mouhama, depuis Goma au Nord Kivu, saluant la nomination de Madame le Premier ministre et la félicitant à cette même occasion, il y a lieu de fournir quelques remarques. Nous voulons la voir exercer pleinement ses fonctions et de ne pas se faire étouffer par le président de la République sur la scène politique, comme ça a été malheureusement le cas avec le premier ministre sortant qui avait du mal à s'illustrer sur la scène politique. Ainsi, elle devrait déjà intérioriser le fait que le premier ministre est le chef du gouvernement, pas l'ombre ou le reflet du président de la République. De ce fait, elle devra exercer ses fonctions jalousement et sans concession aucune pour l'intérêt général de la nation, en imposant son leadership sur la scène politique, sans quoi elle demeurera l'ombre d'elle-même face aux nombreux défis à surmonter qui sont les siens et de son futur gouvernement, tels que la guerre à l'Est et l'amélioration du social des Congolais.
Prince Pengé.
Madame, il a totalement raison. Je voudrais souhaiter la bonne chance à Madame Judith, mais force est de constater que, comme je l'ai rappelé, elle ne fera qu'être à l'image de Samalou Kondé. C'est pourquoi je l'appelle Samalou Kondé version féminine. Vous savez que Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'un premier ministre ou d'une première ministre qui va lui faire de l'ombre. Il a besoin de personnes totalement effacées. Ça a été le cas avec Ilunkamba. Et quand Ilunkamba voulait à un moment donné prendre des décisions fortes, Félix l'avait rappelé à l'ordre. Comme disait, je crois, Jean-Pierre Chevènement en France, un premier ministre ou un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Madame Judith ne saura dire non à Félix Tshisekedi. Impossible. D'ailleurs, cet après-midi, il s'est rendu au siège de l'IDPS pour, selon elle, avoir des orientations de la part du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabuya. Et loin de moi, madame, l'idée de faire un débat sur les bien fondés de la date du 8 mars. Parce qu'à un moment donné, madame voulait ramener le débat sur la question du sexe de la femme. Je ne remets pas en cause les compétences de la femme congolaise. J'ai dit que la femme congolaise n'a plus rien à prouver. Mais c'est que dans les contextes précis, madame est nommée parce que Félix Tshisekedi ne veut pas d'une personnalité forte. Félix veut quelqu'un qui est totalement effacé, qui va lui obéir à tout. D'ailleurs, au Congo, il n'existe plus qu'une seule institution, président de la République. Les parlements n'existent plus, ou n'existent que des noms. Le pouvoir judiciaire, dès que Félix Tshisekedi, comme il a dit lui-même, dès qu'il décide de fourrer son nez dans une affaire, c'est réglé. Et c'est comme ça. Il faut constater. Ça, c'est la réalité.
Je mais vous voyez pas... un premier ministre, une première ministre, dire non au président de la République, issu du même parti politique.
Non, madame, il y a toujours des nuances. Il y a toujours des discussions et des débats. Mais madame ne sera là que pour accompagner Félix Tshisekedi. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a nommé. C'est pour l'accompagner en tout. Alors, laissez-moi terminer en vous disant que... par rapport au défi, nous allons en parler. J'ai abordé la question des faits. Je n'ai pas dit qu'elle a détourné, mais j'ai dit que madame, comme ministre du budget, elle a participé à l'élaboration, à la budgétisation et au suivi des programmes des 145 territoires, de la construction de Kinshasa Arena, et de centres financiers, et surtout de Tshilenjelou. Vous et moi, y compris madame la journaliste, nous connaissons les détournements massifs qui ont eu lieu dans les programmes de 145 territoires. Aller au Kasaï, des dizaines de kilomètres pour lesquels l'argent a été décaissé, n'ont jamais vu le jour. Et c'est madame Judith qui supervisait ces travaux-là. Les rappeler n'est pas commettre un péché, les rappeler n'est pas détester les femmes. Et surtout, on n'a pas tendance à faire croire aux gens que parce qu'une femme, une seule femme a commis plutôt viennent commettre une faute, que toutes les femmes vont se retrouver fautives. Non, ici, il s'agit de madame Judith, qui y a déjà travaillé. Nous connaissons qui elle est. Elle a été au gouvernement. C'est pourquoi, moi, le cas l'a rappelé à juste titre, que c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Donc, faire croire aux gens que c'est une femme, et donc, c'est, comme c'est une femme, tout va changer. Non, comme l'avait dit d'ailleurs Simone de Beauvoir, on n'est pas femme. On les devient. Les compétences d'une personne n'est pas liée à son sexe. Ici, il s'agit de constater que madame va avoir un gouvernement des partis, comme on dit. C'est-à-dire que dans le cadre des simulacres d'élections qu'on a organisées pendant 7 jours et 7 longues nuits, on a nommé des députés, ils se sont partagés les quotas, MLC, INC des Camerés, les camps de Bahati, FDC, IDPS, les camps de Mbosso. Ces gens vont envoyer leurs dinosaures. C'est ce dinosaure-là, c'est Faucon qu'elle va devoir gérer. Or, chacun vient avec l'idée que c'est le dernier mandat. Et chaque membre du gouvernement sera là d'abord pour protéger les intérêts de celui qui l'envoie au gouvernement. Est-ce que cette femme-là peut dire non, par exemple, au tout-puissant ministre des Finances? Comment ça s'appelle déjà?
Nicolas Kazadis.
Pourquoi pas? Gouvernement.
Pourquoi
est-ce
pas?
Excusez-moi, laissez la pauvre femme tranquille, madame. Est-ce que cette dame-là peut faire face, peut dire non à Peter Kazadi, si jamais Peter Kazadi est au gouvernement? Moi, je suis politicien, je vois la réalité. Elle n'est pas chef de parti pour une raison X. Félix l'a mis là, mais je vais vous dire clairement, Félix l'a mis parce que Félix ne veut pas avoir un premier ministre fort, et donc il veut d'une personne effacée, et c'est exactement ce qu'il veut. Mais quant au défi, vu la situation du pays, vu les enjeux, excusez-moi, j'ai confiance à la femme congolaise, mais celle qu'on vient de mettre dans les contextes où on la met, j'ai bien peur que c'est celle qui va être la porteuse de tous les péchés de l'Union sacrée. Et d'ici une année, on va la virer. Et comme toujours, quand Félix a viré Lukamba, qu'est-ce qu'il avait dit? Lukamba l'avait gêné. Quand Félix a voulu virer Samuel Koundé, il a dit publiquement que Samuel Koundé passe tout son temps. C'était pas dans son cabinet. Et là, elle met Madame Judith c'est comme en place invisible. Quand il y a un coup, oui, ça saute, on la met dehors. Et c'est très politique les choix des pays, c'est ce qu'il dit. C'est pas pour l'intérêt du peuple. Malheureusement, pour le peuple qui attendait beaucoup, c'est une déception. Dans la mesure où c'est pour des raisons purement politiques qu'on a passé, madame. J'aurais souhaité la souhaiter bonne chance, mais force est de constater que c'est juste celui qui va porter le péché des Félix, c'est ce qu'il dit, d'ici une année, on va la mettre de côté.
Une partie de la population est aussi satisfaite hein, de ce choix, du. Ce choix porté sur Madame Toulouka.
Mais pas que Madame,
c'est juste une parenthèse.
Madame Ndoundou et vous-même, vous êtes tombée dans les pieds de Félix Tshisekedi.
C'est juste une parenthèse.
C'est une femme, ça va aller.
C'est juste une parenthèse. Je n'ai pas donné mon avis. On a écouté plutôt Madame Ndoundou. Il y a Monsieur Wedi qui vous pose à vous, Madame Linda Ndoundou, la question. Il dit ceci, lorsque Mme Ndoundou nous parle des discours et des études de la première ministre nommée, cela est-il une preuve qu'elle fera mieux que ses prédécesseurs? Les Congolais et les Congolaises sont forts en théorie plutôt qu'en pratique. Hein.
La problématique ici, ce n'est pas de commencer à extrapoler sur... ce qu'une personne fera de mal. La problématique ici, c'est que nous étions en train d'attendre un gouvernement. Ça a pris quand même du temps, parce que nous, en ce qui concerne l'UDPS, ils ont eu 65 ou 68 députés, c'est eux qui avaient le plus. Et tous les autres partis avaient aussi des émiettements de députés. Quand j'entends M. Epengue qui dit que ils se sont partagés. Ça aurait été plus simple pour l'UDPS si c'était vraiment une cuisine hein, de se donner la majorité. Okay? Ça aurait été plus simple d'avoir 300 députés UDPS. Je trouve que si c'est pour faire la cuisine et puis s'arranger entre vous pour faire des choses, ça aurait été plus simple pour ce parti-là d'avoir 300-350 députés pour avoir une majorité absolue. Moi, je crois plutôt que les gens qui tiennent ce discours-là sont dans une réalité qui n'existe pas. La réalité, c'est que si vous dites que les gens font une cuisine pour pouvoir posséder un parlement, eh bien, ils vont bien le faire, puisqu'ils ont la possibilité de bien le faire. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que l'on veuille ou que l'on veuille pas, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, on se posera toujours la même question. Est-ce que c'est ça qui est constructif? Non, moi, je ne pense pas. Moi, je suis... positif, je fais une analyse claire. Quand M. Epengue dit que, par exemple, Félix Tshisekedi veut des gens qui l'écoutent, ben, le projet 145 PDL 145 territoires, c'est un projet qui a déjà été fait dans un autre pays, en Afrique. Peut-être même deux, je pense, mais ça a déjà été fait ailleurs. Bon, Félix Tshisekedi a écouté quelqu'un qui lui a dit que ça a été fait quelque part et que ça a fonctionné. Donc dire qu'on a un président de la République qui ne veut pas écouter, qui veut commander les gens, je ne pense pas que ce soit vrai. Et peut-être que c'est la première ministre qui, dans le cadre de ses fonctions, une fois dans tel pays africain, une fois dans l'autre, dans le cadre du PNUD de l'ONU, qui a proposé ce projet, un peu comme Joseph, qui avait une solution. Et que finalement, le président de la République a dit, ben, comme tu m'apportes une solution qui semble être la solution pour le pays, ben voilà, je vais t'appointer à tel endroit, puis à tel endroit, puisque elle maîtrise mieux le projet. Donc, laissons le président de la République, laissons le premier ministre être totalement souverain de leur pouvoir politique, de leurs compétences. Il faut quand même pas oublier que le chef de l'État est aussi le chef de l'exécutif, d'abord. Hein? Parce que quand on dit, bon, le Premier ministre, oui, mais d'abord, il me semble, à moins qu'on me corrige, je pense que mon co-débatteur, M. Muleka, va peut-être me corriger, mais il me semble que selon la constitution congolaise, il est d'abord le chef de l'exécutif. Bien sûr, il y a un gouvernement qui a comme objectif d'asseoir sa vision, et donc il a le choix en tant que président de pouvoir avoir de pouvoir faire le suivi quand il sent que sa vision peut un peu aller à côté, à gauche, à droite. Alors, les discours, ben, y a des gens qui font des discours et qui ne les respectent pas. Et il y a des gens qui sont chrétiens, comme il me semble que Madame la Première Ministre est chrétienne. Elle a évoqué Dieu, hein, que cette richesse, ce pays que Dieu nous a donné. Et dans la Bible, le oui est un oui, le non est un non. Donc, il me semble dans son discours que moi, en tant que personne, je peux lui faire confiance. Maintenant, c'est à chaque Congolais de se questionner et de donner la réponse. Et nous verrons, comme nous voyons avec d'autres hommes politiciens.
Pascal Mpiana, depuis Lubumbashi, Madame Judith a commencé par reconnaître les défis immenses auxquels elle fera face, ce qui est pour moi déjà une avancée à capitaliser. Et aussi, je salue activement cette volonté de compter sur l'appui des autres. Robert Bahomé, seule son excellence, Madame la Première Ministre, ne peut rien, mais avec l'appui de tous, elle peut faire quelque chose. Les avis sont partagés au sein de l'opinion. Certains sont sceptiques par rapport au mandat de Madame Touluka, la tête du gouvernement. D'autres pensent que avec elle, il y aura réellement un changement. Christian Molika.
C'est tout à fait normal dans une société où on a plusieurs opinions, on a deux points de vue divergents. C'est d'ailleurs pour moi un élément de vitalité démocratique. Donc les Congolais ne peuvent pas tous avoir un même avis. Maintenant, chacun a sa façon de voir le verre, celui qui peut le voir à demi-vide ou l'autre à demi-plat, chacun regarde à partir d'un point, d'autres regardent à partir de l'immensité des problèmes. Et donc, si on regarde à partir de l'immensité des problèmes, on peut faire son analyse, d'autres peuvent regarder à partir des potentiels qu'a la candidate, si on regarde à partir des potentiels que porte la Première ministre, on peut également faire un point d'analyse. Je crois qu'à un moment donné, ce qui est vrai, tout le monde a conscience que les défis sont énormes. Et cette conscience est partagée qu'il y a énormément de choses à faire bouger. Que ce soit d'un point de vue sécuritaire, la société se dégrade, le pouvoir d'achat, on n'en parle même pas, diversifier l'économie, relancer une production industrielle, régler les problèmes de balance des paiements, de dollarisation. Les défis sont énormes. Les routes, le programme de 145 territoires qu'il faudrait peut-être continuer, la gratuité de l'éducation, le président a promis de prolonger la gratuité à l'école secondaire, et donc les attentes sont énormes, et donc ceux qui regardent les attentes on rejoint également de s'inquiéter sur les solutions. Maintenant, elle seule, c'est pas suffisant, il faut voir quelle équipe va l'accompagner, et c'est dans les jours à venir qu'on saura quels sont les ministres qui vont former le gouvernement qu'elle va diriger. À partir de là, on peut avoir un regard plus clair sous l'équipe dans l'ensemble et le leadership qui peut se mettre en place. À ce stade, je crois que ce serait prétentieux de dire s'il restera ou non, alors qu'on vient à peine la nommer et qu'elle n'a même pas encore les hommes qui l'accompagnent. Donc, attendons voir les hommes qui vont mettre en place l'équipe, attendons voir lorsqu'elle va passer devant le Parlement pour présenter son programme, quelle sera l'articulation de son programme, est-ce qu'elle sera chiffrée, chronométrée, programmée, attendons voir lorsqu'elle déposera le budget de septembre parce qu'elle trouve un budget voté, et peut-être qu'elle va proposer un collectif budgétaire, là on pourra les juger sur base des actes. Je crois que c'est très prétentieux de le faire en amont, et moi personnellement je reste donc à l'attente des actes qu'elle va proposer.
Alors, on va prendre deux autres réactions de Goma pour vos questions. Honorable Prince Yangui, depuis Walikale, tout en félicitant Madame Judith, elle doit savoir qu'il n'est pas aisé de diriger le gouvernement d'un pays en guerre, un pays continuellement convoité pour ses richesses, un pays plein de frustrés, un pays pris en otage par une poignée d'individus qui s'emparent de tout, un pays plein de corrompus, corrupteurs, égoïstes et des fêtards. Pour réussir, elle doit être armée d'un courage exceptionnel, de la détermination et l'engagement à affronter les questions difficiles et capable de prendre des décisions impopulaires bénéfiques au pays.
Il a tout dit. Vous avez un environnement qui est très hostile à parler de bonne gouvernance. Vous avez des projets qui ont été lancés qui n'ont pas abouti. Sur ce qui était sur la table, il y a énormément de choses qui peuvent donner de la migraine au Congo. Et donc oui, l'environnement est hostile, mais non, je ne pense pas que ce soit elle ou toute autre personne que tout changerait d'un coup. Ce qui importe, de mon point de vue, c'est quelles sont les bases qu'elle pose l'action dans la durée, comment ça s'inscrit comme une dynamique dans la durée, et donc ça peut s'utiliser à partir des actes qu'elle va poser. Donc à ce stade, oui, on peut continuer à regarder les problèmes, mais attendons voir du concret dans les actes. C'est prématuré de faire des analyses. Le constat, il est vrai. Les problèmes sont énormes, les défis sont énormes. Le constat, il est vrai. Après, est-ce que cette personne, dans un écosystème tel qu'il existe, a des marges de manœuvre? On peut dire oui, on peut dire non. Est-ce que elle aura une particularité, une touche particulière de leadership pour répondre aux questions de gouvernance, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption? Est-ce qu'elle aura les mains libres pour choisir les hommes déjà qu'elle voudra avoir? est-ce qu'elle ne sera pas otage des chefs des partis politiques? Oui, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Donc, à ce stade, c'est trop tôt. Attendons voir le gouvernement pour avoir plus de réponses.
Madame Linda, votre conclusion. Vicar Batungiangi, toujours de Goma, pense que la nomination d'une femme à la primature confirme que le chef de l'État est un véritable champion de la masculinité positive. Vous l'avez dit vous-même dans votre introduction. Pendant que le pays traverse une situation difficile, le Premier ministre, Excellence Judith, n'a pas de temps à perdre. Elle doit évaluer urgemment la situation globale du pays pour identifier les causes profondes des problèmes majeur qui accable la population en vue d'y apporter des solutions efficaces et durables.
Je pense qu'elle les a déjà évaluées vu le premier discours qu'elle a fait et qu'elle se rend compte du poids de la responsabilité que notamment l'auditeur d'avant a pu les points que l'auditeur d'avant a pu souligner. Donc, c'est un grand défi. Il ne faut pas oublier, par exemple, point de vue de la sécurité, qu'il me semble qu'elle a eu une expérience, notamment à l'ONU, mais en termes sécuritaires aussi, elle a une certaine expertise. Donc, moi, je pense que, également, le président de la République est totalement conscient qu'il a choisi une technocrate, et de ce fait-là, à deux, avec les propositions des parlementaires, ils vont choisir un gouvernement de technocrates. Ce serait vraiment logique parce que on ne peut pas avoir un leadership technocrate et avoir des personnes associées à ce leadership qui ont des visions politiques. Ce n'est pas possible. La priorité, c'est l'État. La priorité n'est pas le gain de tel ou tel parti. Elle a souligné, c'est pour le peuple. Je pense que le secrétaire général de l'UDPS aussi a parlé du pouvoir discrétionnaire. Et donc, entre les lignes, il a été clair que cette fois-ci, il ne s'agit pas de partage de gâteau. Il s'agit de compétences professionnelles, de technocratie, ce qui veut dire on exécute pour avoir les résultats attendus. Et donc, je pense que oui, ils vont choisir parmi les partis politiques, mais parmi les partis politiques, ils vont choisir des technocrates, des gens qui ont fait des preuves.
Elle-même, elle a dit, Madame Touka, que ça sera un gouvernement de compétences professionnelles.
C'est clair.
Alors, il y a le président national, Herman Mbouzou, ainsi que tous les cadres et militants des forces à venir du Congo qui félicitent Madame Judith Touka. Ils demandent au peuple congolais en général et à la classe politique en particulier d'apporter à la nouvelle chef du gouvernement le soutien nécessaire qui fera rayonner notre pays, Prince Epengé. Apportez votre soutien à Madame Touka.
Madame, je vous souhaitais, mais je ne peux pas, face à la réalité, je ne peux que m'incliner. Madame Judith a été nommée parce que Félix Tshisekedi n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui faire de l'ombre.
Vous l'avez déjà dit.
D'une personne faible. Ici, les défis sont là. Il y a la guerre qui est là, madame. Vous avez suivi le programme alimentaire mondial, PAM, qui parle des 1 300 000 Congolais qu'il nourrit chaque jour dans des camps de déplacés et dans la périphérie de Goma. Et le PAM a besoin encore, je crois, de 4 milliards pour faire face. Sinon, ça va être une catastrophe. Les gens meurent chaque jour. Les enfants dans les cadres de passage à Goma, ça ne va pas. Chaque jour dans les hôpitaux à Goma, on empite les gens qu'on transporte par des hélicoptères ou autres dans les hôpitaux parce que ça ne va pas. Ici à Kinshasa, on parle gouvernement. Et la situation sociale dans les hôpitaux ici à Kinshasa, les médecins, les professeurs d'université, ça ne va pas. Les fonctionnaires sont sous-payé, voire pas payé.
Il faut conclure.
Et tout ça, est, quand on voit la légèreté avec laquelle ce régime est en train de faire les choses, on se demande où est-ce qu'on va. Madame, parce que vous me poussez à la souhaiter bonne chance, je la souhaite bonne chance, mais je ne vois pas cette dame-là faire face au poids lourd de l'Union sacrée. Vous savez que 80% de la classe politique est dans l'Union sacrée. Les gâteaux sont devenus tellement exécutés, petits, qu'ils vont se tirailler, ils vont se battre pour l'avoir. Madame a dit quelque chose que je voudrais préciser ici. Au Congo, dans le contexte de Félix Tshisekedi ici, on ne nomme pas les gens sur base de leurs compétences, sur base de leur moralité. On nomme les ministres sur base de leur loyauté au chef, sur base de leur militantisme et sur base de géopolitique. Et Madame technocrate est venue, je ne sais pas de quel espace, dans cet environnement-là, comme je vous ai dit, elle ne saura jamais changer le mouvement de rotation en mouvement de translation.
Merci, Prince Epengé. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Jonathan Folani, Clément Chimanga, Hippolyte Kapanga, Pelekipe Lamondo a supervisé ce programme, présentation et coordination. Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.